je m'entends, Owen.
Bon, je pense pas que je vais prêcher dans le livre de Cantique, je suis mieux de prendre la Bible. Si vous avez vos Bibles, ben justement, vous pouvez tourner dans le 15e chapitre de l'Épître de Saint Paul, apôtre aux Romains. On dit pas saint, nous autres. En même temps, c'est du quoi? Il n'était pas plus saint que nous autres. Il était en Jésus-Christ. Nous sommes saints. C'est ce que nous sommes. Paul a dit ça, justement. À qui qu'il a dit ça? C'est ce que vous êtes. C'est aux Corinthiens, justement, je pense.
On pourrait se mettre à s'appeler tout saint.
Ben ouais, Saint-Maxime, Saint-Sébastien. Il y a un Saint-Sébastien au Québec, je suis pas sûr qu'il y a un Saint-Maxime, par exemple.
Ah oui,
il y en a un? Ah ben oui, il est là. Hey, on va lire les versets 1 à 7. Je veux vraiment que le Seigneur puisse graver ces versets sur notre cœur, spécialement le verset 7, duquel est tiré le titre du message et le focus du message. Et je veux vous partager quelque chose de simple mais de précieux ce matin avec tout ce chapitre au complet qu'on va regarder par section. Et donc, au début, on peut lire au verset 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Seigneur, ce passage regorge d'espérance, regorge aussi de ta gloire, parce qu'à plusieurs reprises, on voit que tout ça, tout ce qu'on va considérer, Seigneur, c'est pas pour nous, c'est pas pour se plaire à nous-mêmes, comme on vient de lire, mais pour toi, ta gloire, Seigneur. Donc, on vient à toi parce qu'on veut, Seigneur, te chercher. Merci que tu te révèles à nous dans les Écritures, mais on vient à toi, Seigneur, pour que tu te révèles à nos cœurs ce matin. Dispose-nous, Seigneur, peut-être qu'on a besoin d'être dérangé dans notre confort, dans nos raisonnements. Peut-être qu'on a besoin d'être réconforté, Seigneur, peut-être qu'on a besoin d'être ranimé dans notre espérance. Seigneur, peu importe ce qu'on a besoin, nous avons tout pleinement en toi, donc on vient puiser ce matin. À toi, la source d'eau vive. Et merci, Seigneur. Tu es complet. Tu es parfait. On te remercie, Seigneur, de ce temps qu'on peut prendre ce matin. À tes pieds, toi, notre divin maître. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vous disais que le verset 7, hein, vraiment, ici, il y a quelque chose de bien important par rapport à ce qu'on considère aujourd'hui. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueilli, pour la gloire de Dieu. Juste si on met un peu de contexte à ça, l'Église naissante a été très, je ne veux pas dire le mot disparate, mais disons hétéroclite, n'était pas homogène. C'était pas toutes des gens toutes pareils, du même arrière-plan, c'était très, très différent. Et ici, bon, on peut dire qu'elle est quand même plus, là, malgré qu'on est quand même, ben là, nos internationaux, donc, ils ne sont pas là. En tout cas, il nous manque un peu de l'aspect international, mais vous savez qu'on a du monde un peu partout dans le monde. On peut dire, bon, tous les âges, ça fait à peu près le tour. Mais à l'époque, où est-ce qu'il y avait au sein même de l'Église naissante, ce qui aurait pu être une animosité, ce qui aurait pu être tout un sujet de division entre les Juifs et les païens qui historiquement s'haïssaient à en mourir, bien ici, l'exhortation, c'est « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Et j'aimerais qu'on regarde avec ce message aujourd'hui, qu'on réponde dans le fond à une question bien simple. Pourquoi j'accepterais, pourquoi j'accueillerais quelqu'un de différent, quelqu'un de dérangeant, quelqu'un que je n'aurais pas choisi qu'il soit dans ma vie, mettons. OK? Ben la réponse, Ben, c'est dans le titre du message, c'est dans le verset aussi qu'on a lu. Dieu est la source de toute notre acceptation mutuelle. Pourquoi j'accepterais? Parce que moi, j'ai été accueilli. Ce que j'ai reçu, je peux le donner à un autre. Plus précisément, ici, évidemment, il est question de Jésus-Christ, puis de la rédemption qui est en lui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les passages où les chrétiens sont appelés à faire quelque chose dans leur relation mutuelle, là, les fameux les uns les autres là, dans la Bible, ici on l'a un, c'est accueillez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Il y a beaucoup de les uns les autres dans le Nouveau Testament. Ben, dans le contexte immédiat ou dans le contexte plus large de ces passages-là, Jésus lui-même est la mesure de cet accueil, de cet amour, de ce que Dieu demande. Jésus en est la mesure, comme ici, hein? Ça dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli. Voyez-vous, il y en est la mesure aussi. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Hein? C'est quoi ce commandement nouveau-là? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Voyez-vous, Christ est la mesure. Même chose pour le pardon, dans Colossiens. Ça nous dit que de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça ne dit pas les uns les autres, mais c'est aussi ça qui est impliqué. Des fois, Jésus est donné comme un exemple, par exemple, dans 14:3, ici dans Romains, là, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Comment il l'a accueilli? En Jésus-Christ. Donc, on a tout ça ici comme arrière-plan, comme ce qui nous aide à comprendre ici, ou comme Jésus même pour la grande commission qui nous envoie, comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Vous comprenez un peu l'idée, là? Le pattern? Donc, ce n'est pas nous les initiateurs, ce n'est pas nous qui avons besoin de chercher en nous-mêmes, on a tout ça en Jésus-Christ. Et même pour la vie chrétienne elle-même, je n'ai pas besoin de me demander comment vivre la vie chrétienne, c'est Christ qui vit en moi. Hein, c'est ça que ça dit dans Galates 2.20. Ah, c'est là une question qui vous connaît par cœur. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans cette chair-là, tu sais, la chair tannante qui nous reste encore, puis les passions dans nos membres, des fois, si je vis dans cette chair, voici c'est quoi la clé de la victoire. Je vis dans la foi. La foi, pas en moi, pas en l'autre, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Frère nous disait, je pense que c'est vrai quasiment à tous les dimanches, en tout cas, ou à tous les messages, ce verset-là est cité. Ben, c'est rendu vraiment le verset de ma vie, parce que, je veux dire, j'en avais un autre avant, mais le Seigneur m'a amené au point où est-ce que vraiment je me rends compte, c'est ça la vie. C'est Jésus, c'est ça la vie, c'est l'essence même de la vie. Pourquoi? Ben, savez-vous que Jésus-Christ, là, ça nous dit, là, dans la parole de Dieu, dans Hébreux, au chapitre 1, verset 3, que Jésus, là, sa personne là, qui il est, là, ça nous révèle tout ce qu'on a besoin de savoir sur Dieu. Écoutez bien ce que ça dit. Là, je vous lis dans la Bible du Sommeur. C'est mieux traduit que la Louis II qu'on a dans les mains ou que l'Osterval ou que bien des versions. « Car le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. » C'est ça que Jésus est. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Mais c'est ça, le Fils, c'est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Ce que j'ai besoin de connaître sur Dieu, ça m'est révélé par Jésus lui-même, ce qu'il est, sa personne. Puis son œuvre à Jésus-Christ, ça me révèle la parfaite justice et l'amour parfait de Dieu. Comment les deux sont réconciliés? Il y a un proverbe là-dessus que la justice et la miséricorde se rencontrent. Ils se rencontrent à la croix. Hein? Dieu était juste en s'occupant du péché, en donnant le salaire du péché, mais pas pour que nous on le prenne, mais il l'a fait subir à son Fils, et son amour justement, c'est que il a subi la condamnation à notre place. Pour nous, ces créatures déchues, révoltées, et avant de connaître Jésus, mortes dans nos offenses et nos péchés. Nous qui avions désespérément besoin d'être réconciliés, il est venu puis il a fait la paix par son sacrifice merveilleux. Donc, c'est ce que ici, c'est ce que Jésus nous révèle. Pour ça qu'il est la mesure de tout, autant par sa personne que par son œuvre. Et là, j'ai parlé de la croix, puis on sait que, évidemment, c'est le besoin initial de toute personne d'être sauvé, régénéré, né de nouveau. Mais savez-vous aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, la croix est tellement précieuse. La croix dans la vie d'un enfant de Dieu doit toujours être à l'avant-plan. Elle est d'une importance capitale. C'est le besoin constant de vivre à la lumière de cette grâce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et donc, Dieu qui est notre source d'acceptation mutuelle, dans le texte qu'on considère ce matin, nous enseigne comment vivre à la lumière, ou si vous voulez, dans la lumière de celui qui nous a rachetés. Là, je vais vous amener une petite parenthèse là-dessus, quelque chose que j'ai lu pas plus tard qu'hier. Ça m'a frappé. Quand je parlais de verset de ma vie, c'est rendu Galates 2. Mais savez-vous c'était quoi avant le verset de ma vie? C'est pas que je l'ai... Il est plus bon, là. Mais c'est parce que quand j'ai été sauvé, c'est vraiment le verset que le Seigneur a utilisé pour... C'est pas pour me sauver, parce que je venais d'être sauvé 4 mois avant, mais vraiment pour me montrer que Dieu avec lui, il n'y a pas de négociation. Ceux qui connaissent mon témoignage, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais je lisais hier quelque chose qui faisait remarquer. Savez-vous que Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. » Savez-vous que c'est pas repris après les évangiles? Jésus a dit ça. Mais pourquoi c'est pas repris par Paul? Pourquoi on voit pas ça dans... Parce que Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Pas nouveau comme, hey, là, c'est sorti des nues, personne n'avait entendu parler. Il y a un nouveau sens à aimer Dieu. Comme moi, je vous ai aimé. Vu qu'on a maintenant la révélation de c'est quoi vraiment l'amour en Jésus-Christ, ça donne tout un nouveau sens. C'est quoi ça veut dire aimer Dieu? C'est plus comme, oh là, faut que j'aime Dieu, là, de tout mon cœur, toute ma pensée. Non, non. Comme moi, je suis aimé par Dieu, là, en Jésus-Christ, là, ben, j'aime de cette façon-là. Ou pour le reprendre dans les mots, puis hier, je parlais de ça à Bounikou, c'est mon beau-père. Tu sais, quand notre frère partageait, tu sais, les maris, là, faut qu'on aime notre femme comme Christ a aimé l'Église, là. Hey, ça, c'est un gros fardeau, les gars, là. Partez, là, avec 50 livres de plus dans vos poches, là, ou dans votre sac à dos aujourd'hui. Non, ce que notre frère expliquait, puis c'était tout à fait biblique, c'est que c'est pas un fardeau qu'on apprend sur nos épaules. Comme Christ a aimé l'Église, comme il y a cet amour-là, puis que c'est une fontaine, ben je me place sous cette fontaine, puis là, je peux aimer de la même manière. Pas en mettant un fardeau sur mes épaules, mais en recevant de cet amour, je peux redonner de ce même amour. C'est vraiment ça ici l'idée. Et c'est pour ça que Matthieu 22, 37 n'est pas repris, parce que le nouveau sens du commandement, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que Christ maintenant en est la mesure. Ça change tout. Le fardeau n'est plus sur nos épaules. Maintenant, c'est le fruit de connaître Dieu. C'est le fruit de sa vie. Ou si vous voulez, c'est le débordement d'être sous la fontaine qui jaillit au calvaire. Donc ça, c'était mon introduction. Et là, je vais vous donner simplement 3 bénéfices mutuels de connaître le Dieu qui est notre source d'acceptation mutuelle. On vient d'en parler et je continue un peu sur ce que j'avais dit. Dans les versets 1 à 7, on voit vraiment l'exemple de la vie de Jésus. C'est le premier bénéfice ici de connaître le Dieu qui est notre source d'acceptation mutuelle. On voit ici l'exemple de Jésus. Puis je vais vous donner un peu plus que juste dire « Ah, faut vivre comme Jésus, là. » Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Mais d'abord, je commence avec une illustration, une image vaut 1000 mots. Vous savez, il y a des collèges bibliques, des fois, là, il y en a un petit peu ici, il y en a plus aux États-Unis, mais dans un des collèges bibliques assez connus aux États-Unis, il y avait le directeur qui était là, qui venait d'être engagé, et que, bon, il y avait une réunion avant ce qu'ils appellent le chapel service, OK? C'est quand il y a un collège biblique, les étudiants, ils ont des réunions d'église, là, ils appellent ça chapel, la chapelle, là, bon. Ben, ils vont à l'église aussi le dimanche, mais ils ont comme des réunions supplémentaires, là, d'habitude, c'est à tous les jours. Donc là, avant de ces réunions-là, il était rassemblé, le directeur avec lui, qui était nouveau directeur du collège, avec les gens qui étaient là. Puis là, arrive un peu à brûle-pourpoint un étudiant habillé en hippie. Tu sais, un peu dans les années 70, puis mettons qu'il détonnait un petit peu du reste de la gang. Puis là, il crée un peu un malaise, là, tu sais, coudon, il y a quelqu'un qui est rentré ici par intrusion. Puis c'est un temps avant, dans le fond, le temps de chapelle, qu'il prenait pour prier le Seigneur. Puis le jeune, de prier simplement... Seigneur, je te remercie pour notre nouveau directeur. Il est tellement un encouragement, une bénédiction pour moi. Je te prie de l'utiliser pour ta gloire, d'accomplir tes desseins à travers lui. Merci pour cet homme que tu nous as envoyé. Peux-tu vous dire que juste une prière simple de même de ce jeune homme a changé la disposition du directeur qui le regardait un peu de travers, disons, avant? Mais là, les choses étaient encore plus loin lorsqu'après... Le directeur en question, lorsqu'il était sur la plateforme, là, c'était le temps de la chapelle, il fait venir le jeune homme. Là, on s'entend, là, tu sais, c'est un collège biblique, tout le monde est tout beau. Puis il fait venir le hippie en avant, tu sais. Puis là, il met comme ça la main sur l'épaule. Puis il dit, je suis content de vous présenter frère un tel, mon frère en Jésus-Christ. Puis dans le fond, il présente, puis il dit quelques bons mots avec lui pour encourager les gens, puis tout ça, à travers bon, ce que lui faisait dans le collège. Puis finalement, le directeur a appris plus tard que le jeune homme en question, c'est ça le point de mon illustration ce matin. Le jeune homme en question, pourquoi il s'habillait comme ça? Pourquoi il avait les cheveux longs? Pourquoi il était habillé, je ne sais pas si j'ai vu un hippie, là, tu sais, habillé pas mal lousse, là. Mais donc, il y avait en masse de tissu dans ce temps-là, ça coûtait pas cher, fait qu'il mettait ça lousse, puis bon. Les hippies, vous savez à quoi ils ressemblaient dans les années 70? Ben, c'est parce qu'il voulait atteindre les jeunes de sa génération. Puis, c'était son désir, vraiment, lui, c'était vraiment un enfant de Dieu, né de nouveau, puis... Savez-vous quoi? Peut-être que ça vous offense quand on prend un exemple de main. Savez-vous que Hudson Taylor a choqué aussi sa génération? Parce que lui, il est habillé comme un Anglais, là. Ben, à l'époque, bon, un Anglais, si vous allez à Londres, il risque pas d'être habillé comme Hudson Taylor l'était, mais il y avait une façon de s'habiller, raser, puis tout ça. Puis Hudson Taylor, en étant sur le champ missionnaire en Chine, m'a donné, Dieu a vraiment dirigé, convaincu de changer son apparence, puis s'est habillé comme un Chinois. La longue tresse, là, puis il avait pas l'air d'un Anglais pantoute. Pourquoi? Parce que c'était le même désir que le jeune homme, il désirait amener l'Évangile. Puis, voici comment je vois vraiment ici un parallèle avec l'exemple de Jésus. Vous savez, Jésus choquait les gens de sa génération. Si vous ne me croyez pas, je vais vous le montrer avec des Écritures. Ici, quand les gens parlaient de Jésus, il dit, « Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. » Ils disent, « Il a un démon. » Le Fils de l'homme, ça c'est Jésus, est venu mangeant et buvant. Ils disent, « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Peut-être que ça nous choque des fois des choses qu'on dirait que c'est pas dans la zone de confort. Tout ça. Savez-vous que Jésus, pour ses détracteurs, était aussi choquant. Son exemple choquait les gens. Mais savez-vous qu'est-ce que ça nous montre sur les détracteurs de Jésus, ceux qui s'insurgeaient du fait que Jésus est avec les gens de mauvaise vie et tout ça? C'est que eux-mêmes manquaient cette réconciliation. Eux-mêmes ne jouissaient pas de l'acceptation de Dieu. En fait, on apprend par les Écritures pourquoi ils s'opposaient à Jésus. Parce qu'ils étaient jaloux. Plusieurs passages en parlent, là, mais par exemple, dans le livre des Actes, là, au chapitre 5, puis au chapitre 17, on peut lire, chapitre 5, 13 et 17, ça dit que les Juifs se levèrent remplis de jalousie. Ça, c'est par rapport aux disciples de Jésus. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Puis aussi, ça nous dit, mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace. Puis bon, ils ont provoqué des attroupements. Puis on apprend aussi dans Romains 11, ça dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Dieu faisait les choses à dessein. Savez-vous quand Dieu provoque, quand Dieu ça nous dérange, quand Dieu vient nous peser le piton sensible, disons ça de même, savez-vous que Dieu est en train d'accomplir quelque chose? Dieu poursuit un but. Des fois, on dit, ben voyons, ça donne, mais pas de bon sens, cette affaire-là. Cette situation-là, où cette personne-là, elle donne, pas de bon sens. OK, peu importe comment on peut penser aux choses, il faut qu'on voit le Dieu qui est au-dessus et qui dirige tout ça, qui permet ces choses. Parce que si on voit juste ce qui choque, probablement qu'on voit, on manque le Dieu qui est en train de se servir de ça pour accomplir son dessein. Donc, ce qui ressort, parce que, je vous l'ai dit, là, notre verset 7, puis son contexte nous aide à comprendre que c'est un contexte de même. Où est-ce qu'un païen qui arrive, puis « Hey, moi, je suis appelé par le Seigneur! » Puis l'autre, le juge, « Ben voilà, non, t'es pas de la tribu de Lévi, tout ce que tu fais là, retourne chez vous, puis là... » Mais nous, ça donnait des espèces de situations que pour nous, c'est un peu étranger, mais pour eux, c'était tout à fait concret. Ils disaient, « Tu peux pas te dire appelé de Dieu, là, t'es pas... » Vraiment, t'es pas de la race élue, t'es un païen, puis... T'sais, Timothée, là, ça passait pas comme de l'eau du beurre dans le poêle, son affaire, là. Disant qu'il était appelé de Dieu. Là. Donc, voici ce à quoi je veux amener ce premier point-là de l'exemple de la vie de Jésus. C'est que si on veut suivre l'exemple de la vie de Jésus, là, écoutez-moi bien, là, c'est plate, là, ça c'est un point plate. Là. Il faut s'attendre à souffrir pour le bien puis même pour le péché d'autrui. Puis on va voir que ça veut pas dire de tolérer le péché, ça veut pas dire de faire des niaiseries, là. Mais tu sais, Jésus, c'était pas le peace and love de l'école du dimanche qu'on voyait se promener, puis tout est beau. Non, Jésus est un homme de douleur, accoutumé à la souffrance. Jésus était rejeté, méprisé des hommes. Et si on veut marcher dans ses traces, il faut s'attendre à ce qu'on aille aussi du rejet. Et là-dessus, il y a un passage qui me parle tellement, tantôt quand on priait, je l'ai cité, mais Paul, là, il avait une vie comme ça, parce que Paul suivait Jésus, puis il a marché dans ses traces, il a suivi son exemple, en sens qu'il il prêchait le même message, il vivait cette vie-là de Jésus en lui, et ça lui a amené toutes sortes de troubles. Là, on voit son pedigree dans 2 Corinthiens, mais ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 11, ça dit « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. » Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Savez-vous qu'il y a un principe vital ici? Il n'y a pas de vie sans la mort. Tant que ma chair est vivante et qu'elle veut s'exprimer et tout ça, j'étouffe la vie, j'attriste l'esprit. Mais quand cette chair-là qui veut ci et qui veut ça, là, moi je veux ci et ça, si ça, je dis OK, c'est plus ce qui me dirige, c'est plus mon identité, c'est plus mon autorité. Dieu, c'est toi que je veux laisser répondre à cette personne qui m'énerve. C'est toi que je veux laisser répondre à cette situation qui me rend tellement anxieux, anxieuse. Quand que ça, c'est la réponse, c'est la mort. OK, on agit selon la mort. Là, la vie de Christ se manifeste en nous. Puis, Paul amène ça ici avec verset 11. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. C'est une loi spirituelle. Vous voulez la vie? Bien, suivez l'exemple de Jésus, qui était constamment exposé à la mort. Ça, ça ne veut pas dire de vous mortifier et essayer de mourir à vous-même. Là. Je ne suis pas en train de vous mettre un fardeau sur les épaules. Mais au lieu d'écouter, moi, ce que je veux faire, la foi, c'est quoi? Le sacrifice? On parlait de ça mercredi. La vie Galates 2.20, ce n'est pas de la passivité. Au contraire, c'est la foi vivante qui dit, non pas moi, mais toi, Seigneur. Pas ma volonté, mais la tienne. Puis ça, ça coûte, puis c'est poche quand on veut faire ce qu'on veut, parce que c'est pas nos raisonnements, c'est pas ce qu'on aurait pensé, c'est pas ce qu'on aurait voulu. C'est tout le contraire de la chair, le moi. OK, êtes-vous encore tout le monde avec moi? Et vous pourrez avoir un autre petit point? Deuxièmement, donc l'exemple de la vie de Jésus, je répète, hein, son exemple, ça se résume ainsi. Souffrir pour le bien et le péché des autres. Et on va voir plus ce que ça veut dire, mais déjà en disant ça, c'est ouais, pas très pep talk ton affaire. Ben c'est ça l'exemple de Jésus. Constamment, il souffrait pour le bien, puis même le péché des autres. Deuxième bénéfice qu'on voit, le fruit de la vie de Jésus. Non seulement l'exemple de la vie de Jésus, mais le fruit de la vie de Jésus. Et dans les versets 8 à 13, on voit vraiment ici un beau passage où est-ce que Paul... situe le contexte de, ici, bon, il parle beaucoup à une église avec beaucoup de païens, et donc il situe le contexte à la lumière de l'Ancien Testament. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, c'est les Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Donc ça, c'est les Juifs. Verset 9. Tandis que les païens, ça c'est les nations, glorifient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit. Puis là, il y a plusieurs citations. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Puis regardez le verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit. » Et ça, c'est ça le fruit de la vie de Jésus-Christ. La louange, l'abondance, la joie, la paix abondante par la foi. Et donc, le but de Dieu, là, avec ce qu'il permet dans nos vies, puis avec son œuvre, le but de Dieu... avec aussi, justement, notre acceptation mutuelle. Pourquoi j'accepterais de souffrir pour le bien et le péché des autres? Le but que Dieu veut avec ça, là, c'est se glorifier là-dedans. Puis dire, regarde, moi, je prends du monde tout pas pareil, incompatible, puis je montre que moi, je suis tellement bon, je suis merveilleux, puis regardez la belle œuvre que je fais. Ils s'aiment, ils s'accueillent les uns les autres, ils sont uniques parce que c'est une œuvre unique que je suis en train de faire avec eux autres. Et tout ça, mes amis, tu sais, l'idée de la gloire de Dieu, là, c'est bien le faire paraître. Donner gloire à Dieu, c'est dire, waouh, t'as-tu vu ce Dieu-là? Il n'y a pas de Dieu comme lui. C'est ça l'idée de gloire. Fait que, l'idée ici, là, c'est que, avec cet accueil, cet amour, cet accueil mutuel, ça dit, waouh, t'as-tu vu le Dieu qui fait une chose pareille? Ça donne gloire à Dieu. Ça, c'est le fruit de la vie de Jésus. Ça donne gloire à Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ben peut-être pas, à moins que vous ayez cherché dans vos Bibles auparavant, mais dans les citations qui sont dans les versets 9 à 12, là, ben c'est l'ensemble des écrits de l'Ancien Testament. Je pense qu'il y a un point ici. Il y a une citation dans la Pentateuque, une citation dans les livres historiques, dans les psaumes et dans les prophètes. Ça, là, c'est l'ensemble de l'Ancien Testament. OK? C'est-à-dire que dans tout le plan rédempteur de Dieu, tout ce que Dieu avait révélé là, dans toutes les parties de l'Ancien Testament, le but de Dieu était d'être glorifié par toutes les nations, pas juste par son peuple, mais toutes les nations. N'est-ce pas ce qu'on voit avec Rahab, la prostituée, qui était une païenne, Ruth, qui était aussi une païenne, qui sont dans la généalogie même de Jésus, Naaman, hein, ce chef syrien, la veuve de Sarepta, toutes des gens qui n'étaient pas d'Israël, mais qui ont glorifié le Dieu d'Israël en le connaissant. Et ça parle, hein, c'est écrit dans ces versets-là que glorifier, chanter à la gloire, l'idée c'est vraiment de célébrer Dieu. Je pense qu'ici, il y a une leçon importante par rapport au fruit de la vie de Jésus en nous. Parce qu'on peut penser, quand j'ai parlé tantôt de l'exemple de la vie de Jésus, de souffrir pour le bien et le péché des autres, de tout être débobiné, dans l'apathie, d'être découragé. Hey, c'est pas chaud de souffrir pour le bien. Mais quand on voit après le fruit, c'est quoi? La louange, la gloire, les chants, de l'allégresse. Il y a comme quelque chose qui marche pas, là. Souffrir, puis allégresse. L'exemple de la vie de Jésus, qui est un homme de douleur accoutumé à la souffrance, puis après ça, toutes les nations qui donnent gloire, qui chantent à la gloire de son nom. C'est un paradoxe. C'est une contradiction apparente. Quelque chose qui semble ne pas aller ensemble, mais ça va tout à fait ensemble. Parce qu'avec Dieu, voici c'est quoi le principe. Payez maintenant, réjouissez-vous après. Avec Dieu, avec le monde, c'est quoi? Réjouissez-vous maintenant, soyez dans la misère après. Le juste vivra par la foi. C'est pour ça qu'on ne peut pas y aller par la vue. Là. Hey, là, je vois que ça marche, je vois que ça va amener ce que je pense, puis là, je vais être bien heureux. Ça, c'est la chair, c'est pas la foi qui pense demain. Avec Dieu, il nous dit, non, je te fais passer par un chemin que tu n'aurais pas décidé, que tu n'aurais pas voulu. J'ai des voix qui ne sont pas tes voix, qui sont tellement plus élevées que tes voix. Mes pensées, tu ne peux pas les comprendre, mais fais-moi confiance. Puis là, il fait confiance, il dit, hein, Dieu, tu avais donc bien raison, c'est donc bien merveilleux. Et c'est ça, c'est pour ça ici qu'on voit que le fruit de la vie de Jésus, c'est la joie, c'est la paix, c'est la louange. Et oui, il y a un prix à payer. Oui, la vie chrétienne, c'est pas la prospérité, tout va bien, puis il n'y a pas de problème. Non, il y a des épreuves et des difficultés, mais le fruit, mes amis, il n'y a rien de comparable à ça. Et ça m'amène à une application importante. La semaine passée, on a eu le repas du Seigneur, puis j'en ai parlé un petit peu, mais vous savez, c'est tellement important. Pourquoi? Ceux qui n'étaient pas là, on s'est posé la question, pourquoi qu'on a le repas du Seigneur? Ben, parce qu'il faut le faire, c'est quelque chose que Jésus a dit de faire. C'est bien plus que juste dire, ah, oh, c'est une affaire qu'il faut qu'on fasse. Quand on comprend pourquoi, c'est parce que Christ veut constamment et toujours rester au centre. Que sa personne et son œuvre soient le centre de notre adoration, de notre communion. Tu sais, c'est pas notre église, c'est la sienne. Puis le repas du Seigneur, ça nous ramène à lui, à ce qu'il est, puis à ce qu'il a fait. OK? Et ici, je vais faire peur à quelques personnes ici, là. Savez-vous quoi? Un des mots, là, pour le repas du Seigneur, savez-vous c'est quoi? C'est l'Eucharistie. Mais là, je viens de vous parler en grec, vous ne saviez peut-être pas, là, mais quand je vous dis Eucharistie, là, ayez pas peur, OK? Ça veut juste dire action de grâce. Savez-vous quoi? On pourrait, au lieu de dire repas du Seigneur, voici ce qu'on pourrait dire. Annonce pour, ça va être le 3 septembre, Repas agapé, suivi d'un repas d'action de grâce. Parce que c'est ça le repas du Seigneur, c'est une action de grâce pour l'œuvre parfaite, complète de Christ. On dit merci Seigneur. C'est pour ça que le mot Eucharistie, ben, je ne vais pas le prendre parce qu'il est trop chargé dans ce Québec catholique. Mais c'est un méchant bon mot, là. C'est l'action de grâce. C'est comme, on va avoir un repas là, pour dire merci Seigneur pour ton œuvre accomplie. Merci que tu es le centre, on veut que tu restes le centre. Pis... Fait qu'on pourrait se mettre à appeler ça au lieu du repas du Seigneur, le repas d'action de grâce. Repas agapé, l'amour fraternel. Repas d'action de grâce, merci Seigneur pour ton œuvre. Je pense que je viens de changer les noms. Je pense que c'est comme ça qu'on va le dire. Parce que c'est ça l'idée. Une église qui est centrée sur Jésus est une église qui le loue, qui le célèbre, qui parle pas, qui pense pas tant à nous autres, puis l'autre qui a fait ci, puis ça, non, c'est Dieu qui prend la place. Puis quand on devient tellement offensé ou tellement dérangé par ci, puis par ça, vous savez quoi? C'est parce que nous, on est là, puis on prend le milieu, le centre d'attention. C'est comme un signal d'alarme, dire « Ouh, t'es pas si important, c'est moi ici, là. » Puis c'est ça l'idée du repas du Seigneur. C'est pas notre église, c'est pas par rapport à nous, puis... Nos différences ou nos importunités ou peu importe, c'est Dieu, c'est lui, c'est sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est justement c'est de porter du fruit par le Saint-Esprit. C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui s'explique humainement, c'est surnaturel. Et ça m'amène donc au troisième point tellement important ce matin. On a l'exemple de la vie de Jésus, on a le fruit de cette vie-là, mais aussi... On a l'exhortation qui est donnée pour la manifestation de la vie de Jésus. La manifestation de la vie de Jésus. Regardez le verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions et capable de vous exhorter les uns les autres. Donc, il leur fait confiance. Cependant, verset 15. À certains égards, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce qui m'a été faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Pourquoi si Paul leur fait confiance, il leur donne une exhortation dans le verset suivant? Bon, on pourrait dire, pourquoi si on se fait confiance les uns les autres, on vient à l'église tout le temps, puis on entend des messages, puis parce qu'on a constamment besoin de se ramener dans cet état de dépendance, de se rappeler du fait qu'on dépend de la grâce de Dieu. Parce que, je le rappelle ici, là, quand on voit ça, on voit que Paul use d'un certain tact. Il dit, je parle avec une sorte d'hardiesse, un peu comme avec Philémon. Tu sais, il parle à Philémon dans sa lettre, il dit, hey, c'est extraordinaire ce que Dieu fait avec toi, puis j'entends parler de ta foi, puis j'entends parler de ton amour pour tous les saints. Mais je veux juste dire un petit quelque chose avec Onésime, là, cet esclave en fuite, là. Je vais user d'hardiesse, parce que dans le fond, il demande à Philémon de laisser Onésime l'aider. Mais ici, c'est un peu la même idée. Paul fait confiance à Dieu, puis il fait confiance à Dieu dans la vie des Romains, dans la vie de Philémon, OK? Mais en même temps, il est tout à fait convaincu du besoin universel de la grâce de Dieu au moyen de la foi. C'est-à-dire que, oui, il insiste. Pourquoi il insiste? Parce qu'il sait, puis d'ailleurs, Paul cite trois fois Habacuc, là, dans ses écrits, il sait que le juste vit par la foi. Donc, l'exhortation, c'est pourquoi? C'est pour toujours ramener à la question... de la foi, de la confiance. Il sait qu'ils sont capables de s'exhorter. Il sait qu'ils savent quoi est la bonne chose à faire. Mais dans le fond, l'exhortation, c'est « Hey, continuez à toujours mettre votre confiance à la bonne place, dans la bonne personne. » Et donc, c'est ça ici le sens de ce qu'il leur écrit, de leur exhortation. Il leur écrit pour leur rappeler que leur vie, c'est pas par rapport à eux-mêmes puis ce qu'eux autres, ils veulent faire, mais que c'est par rapport à Jésus puis la manifestation de sa vie. Et c'est surnaturel. On le voit ici dans les versets suivants. Il parle de la puissance des miracles et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Et donc, il les exhorte parce qu'il désire que constamment Jésus soit manifesté à travers eux. Je vais vous le dire en termes bien terre à terre, là. Tu sais, dans ma vie, je peux avoir fait des exploits, des choses merveilleuses. J'ai vu des gens venir au Seigneur. J'ai vu des gens vraiment là, restaurés ou tout ça. Puis, hey, Dieu m'a même donné le privilège d'avoir une part là-dedans en disant quelque chose, en faisant quoi, en priant ou peu importe. Savez-vous quoi, quand se levant demain matin, là, je vais avoir besoin de la même grâce puis de défendre autant de Dieu que tout ce que j'ai fait. Tu sais, dans le royaume de Dieu, là, les choses acquises d'avant, là, c'est passé. On porte les regards sur ce qui est là. J'ai besoin de Dieu, là, aussi fort aujourd'hui que je n'ai eu besoin, là, la fois que j'ai fait. C'est ça l'idée de présentation. Hey, c'est super ce que vous faites, puis vous êtes quand même. Je vous vois, vous avez une maturité, vous êtes solide. Mais vous avez besoin là, dans le moment présent, là, comme Pierre le dit, dans la vérité présente, de se confier en Dieu. Ça, c'est une vérité tellement importante et précieuse, on ne peut jamais s'asseoir sur nos lauriers. Hein, mais c'est encore là, c'est poche. J'aimerais sûrement avoir une coupe de. Tu sais, des choses sur mon blason, là, puis dire, ah ben là, moi, je suis dans la catégorie, là, des chrétiens confortables, puis là, eux autres. Eux autres, vu qu'ils ont l'expérience, ils ont moins besoin de Dieu. Avouez qu'on pense des fois le même, hein. Ah, elle, c'est une chrétienne, ça fait plusieurs années. Lui, c'est un chrétien, il a passé toutes sortes d'épreuves. Là, eux autres sont corrects, ils ont moins besoin de Dieu.
C'est cruise control.
Ouais, là, ça, c'est un chrétien cruise control. Non, justement. Dieu a conçu la vie pour pas qu'elle soit de même. On dépend constamment de lui. Parce que rappelez-vous quelque chose que j'ai répété à plusieurs reprises. On a cette tendance à vouloir contrôler, hein. Il y en a que c'est plus évident que d'autres, mais on est tous pareils, OK? Fait que ceux qui c'est pas évident, pensez-vous pas bon, là. Vous êtes juste moins subtils, OK? Puis ceux qui sont pas subtils, ben c'est ça. C'est pas subtil. Mais on désire tous contrôler, mais pourquoi? Parce qu'on a peur. Pourquoi qu'on a peur? Parce qu'on croit pas. On ne croit pas que Dieu est au contrôle, on ne croit pas que Dieu nous aime, on pense qu'il y a besoin de notre aide. Fait que c'est pour ça qu'il constamment, cette exhortation-là pour que la vie de Christ soit manifestée, il faut constamment qu'on revienne à ça. Comme un endroit sécur et paisible auquel on revient, puis dire, c'est vrai Dieu. Moi, je vous dis, ça a tellement changé ma vie, là. Je parlais de ça, là, on parlait de traverser le Jourdain, puis tout ça, des choses qu'on va revenir là-dessus plus tard. Puis, mais c'est quand, moi, j'ai traversé le Jourdain, là? Puis, si vous comprenez pas, c'est pas grave, je vous expliquerai plus tard, là, pour pas vous prêcher trois messages en un, là. Ça va être trop long, mais. Puis là, je me demandais, coudonc, c'est quand j'ai fait le déclic de la vie changée, puis, tu sais. Moi, je parlais de ça avec ma femme, puis moi, là, c'est arrivé au moment parce que j'ai été saisi par le fait que Dieu m'aimait. Je me disais, ah ouais, arrive en ville. Tu sais, je veux dire, j'ai été sauvé. En fait, moi, c'est comme ça aussi que j'ai été sauvé. Hein, Dieu m'aime, moi? Tu sais, j'avais comme la misère à croire. Tu sais, j'étais le gars qui voulait rien savoir de Dieu, puis que là, je m'en vais, puis Dieu m'aime. Pour moi, c'était comme, ça se pouvait quasiment pas. Puis, de le réaliser aussi en tant qu'enfant de Dieu, après des années de vie chrétienne, d'avoir essayé de plaire à Dieu pour qu'il m'aime, pour qu'il soit content de moi. Puis là, de me reposer... Guillaume, t'as pas à tout essayer d'impressionner. Il t'aime déjà. T'as pas besoin de faire de quoi pour qu'il t'aime plus. Ça, pour moi, ça a été une libération, là. Ça a été tellement précieux. Puis, vous dites, ben là, il me semble que t'es lent à comprendre. Ben, j'ai besoin d'être exhorté puis d'être affermi dans la vérité présente parce que quand j'ai compris ça, ça a complètement changé toute ma façon de voir la vie chrétienne. Parce que. Avant, j'étais dans une dynamique à cause de ce que je croyais, qui était un mensonge, que j'ai besoin de faire ça pour que Dieu soit content. Puis après ça, ça change complètement la dynamique avec tout dans ma vie. Les personnes, les situations, tout, avec ma relation avec Dieu. Du fait que, non, je suis sécure dans l'amour de Dieu. Son amour est parfait, son amour. Puis, pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que, c'est une affaire dont j'aurais pu prêcher des messages, j'ai probablement prêché beaucoup de messages sur l'amour de Dieu. Mais quand on est saisi par une vérité de Dieu, c'est pas pareil que juste dire une vérité de Dieu. Il y en a un qui peut être ici, puis on peut le proclamer avec conviction puis vérité, mais l'autre, c'est ici, dans le cœur, c'est totalement différent. Et là, je vous amène une autre illustration par rapport à tout ça, là, puis le point, c'est un point important, je vais prendre mon temps là-dessus. Vous avez un roast beef, il va être bien cuit, OK? Si vous avez un roast beef dans le four. Tu sais, dans la vie, là, il y a des affaires à poche, des fois, dans la vie. Des fois, on est confronté à la chair de quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a juste, pas juste... Tu sais, ma chair, je la trouve talente, là. Mais là, des fois, elle se frotte avec la chair d'un autre. Par exemple, une fois, on s'est rendu compte, ma femme puis moi, quand ma chair réagit à celle de ma femme, ça fait pas un beau mélange. Ou quand la chair de ma femme réagit à la mienne, off. Tu sais, c'est comme, c'est de mal en pire. Empire, puis là, OK. Il y a sûrement ici des gens qui peuvent me comprendre. Peut-être deux, trois, là. Vous deux en avant, vous semblez assez... vous autres, je pense que vous me comprenez. La chair ou le moi, là, tu sais. Mais moi, je veux ça de même, là. Moi, c'est ça que je pense, moi, là. Je vous dis encore moi, là. Moi. OK? Ouais. Là, je suis pas subtil, mais c'est parce que c'est pour amener un point. Quand ça se confronte, quand ça frotte de même. Mais moi, je vous dis, là, ma réaction, là, je confesse ce matin, une confession pastorale, ça m'énerve. J'ai comme le goût, c'est, ben voyons donc, ça, tu sais, puis j'ai comme cette, moi, ma réaction, d'irritation, puis de, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, puis ça m'énerve, OK? Puis c'est comme, il y a toutes sortes de variations aux réactions qui vont avec, mais vous comprenez l'idée quand je dis ça m'énerve, OK? Ça m'irrite. Et là, écoutez bien, là, quand on pense aux affaires, hein, j'aime tellement pas ça quand quelqu'un veut que son moi règne sur ma vie. J'aime bien mieux quand mon moi règne sur ma vie. Puis je veux briser le règne de son moi sur ma vie avec le règne de mon moi. Voyez-vous la folie de tout ça, là? C'est-tu le règne de la grâce? C'est-tu le règne de Christ? Pas en tout. C'est la chair qui répond à la chair, qui amène plus de chair. Puis je vais t'imposer le règne de mon moi, tu vas voir, ça va aller bien mieux. Non. La réponse de Christ, c'est pas d'imposer le règne de moi, de ce que moi je pense que je veux, de ma chair, mais de lui le laisser régner. C'est ça, la foi. C'est ça, souffrir pour le bien et le péché des autres. C'est ça, marcher par la foi en faisant pas ce qui est dans notre zone de confort, ce qu'on voudrait. Ça, mes amis, là, il y en a qui disent, hey, pour vous, là, vous prêchez Galates 2.20, là, puis Christ qui vient en vous, là, c'est du passif. C'est passif. Essaye ça, tu vas voir que c'est loin d'être passif, là. C'est une réponse très active de ce qui est très contre nature. En fait, l'autre réponse est naturelle. Ça, c'est plus passif. Bon, je laisse aller de même. Tu sais, mon moi a toujours été habitué de répondre de même. Ben, je le laisse faire de même. Mais pour consciemment dire non, je veux pas faire ce que moi je voudrais faire. Je veux pas penser comme moi je suis habitué de penser. Christ en moi, Dieu, je veux que toi tu répondes à cette situation-là. C'est tellement de fois. OK, je vais vous donner un exemple. Moi, je pourrais donner des exemples pastoraux, mais là, je vais vous plaire trop ces orteils, ça serait pas très gentil. Vous êtes super fin, mais des fois, il y en a qui sont tannants. C'est pas juste Maxime pour un indice, OK? Non, mais, tu sais, puis dans ma famille, tu sais, on est tous tannants. Souvent, j'ai pu dire, ça m'énerve, OK? Mais je vais vous donner un autre exemple. Tu sais, le ministère de prison, puis le ministère à Saint-Casimir, que Dieu, c'est tellement extraordinaire ce qu'il fait. Puis je partais ça, je pense, c'est la semaine dernière. Tu sais, c'était tout le temps mon désir avant de dire, ben là, tu sais, je veux parler de Christ. Puis encore là, il y avait le moi, tu sais, qui veut faire de quoi de bon, d'amener Jésus, OK? Puis là, vu que Dieu est en train de complètement tout changer ma façon de penser, ben, mon désir maintenant, non, c'est... Dieu, la meilleure chose que je peux faire, là, c'est te présenter toi. Ce que les gens ont besoin, là, c'est pas moi, c'est toi qui vis en moi, là. C'est ça que j'amène à la prison. C'est toi, Seigneur, que je veux présenter. Je pense que je l'exprime mal, là. Je veux juste dire, dans le fond, que la pression est plus sur mes épaules, là. Là, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais pas dire? Dieu, je dépends de toi, là. Tu sais, puis là, je sais pas, parce que c'est le fun, c'est des ministères surprises. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Ça, c'est le fun. Là, t'es dans un état de dépendance. Fait que là, tu t'attends à Dieu, puis là, paf, les affaires arrivent. Et c'est extraordinaire. Je vous dis, là, depuis ce temps-là, je vois Dieu tellement à l'œuvre, là, comme j'avais jamais vu avant. La différence, c'est quoi? Moi versus Christ. Le bon moi avec des bonnes intentions versus Christ. Et donc, je pense que on a besoin de comprendre ce matin, là, si on veut manifester la vie de Jésus en nous, il faut accepter que le vieil homme est mort, qu'on n'est plus redevable à la chair, que c'est plus notre identité, c'est plus ça qui colle les shots dans notre vie. C'est le Dieu vivant, selon sa parole bénie, qui nous dirige toujours dans toute la vérité. Et c'est ça la meilleure réponse qu'on peut donner aux personnes puis aux choses qui nous arrivent. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, des fois, dans une église, on peut être un peu pantouflé, emmitouflé, en tout cas, on peut être confortable dans nos pantoufles. Puis, une histoire raconte une église, bon, dans un milieu plutôt, tu sais, huppé. Mettons une église à Sillery, là, pour mettre ça, là, local à Québec, là. Tu sais, les gens vont, puis... plus de la classe moyenne élevée, là, à l'aise. Et donc, l'église est pleine. Puis tu sais, il y a des gens qui aiment le Seigneur, puis tout ça, mais bon, c'est une culture, tu sais, qui... Puis arrive quelqu'un qui est converti, puis lui, il connaît pas trop, puis il rentre à l'église, mais tu sais, c'était quelqu'un qui sortait pas mal plus de la rue que de céleri, là, OK? Fait que, tu sais, ça paraît, puis le pire, c'est qu'il arrive à l'église, puis il n'y a même plus de place, l'église est tellement pleine, fait qu'il s'assit dans l'allée. Fait que ça fait un peu, tu sais, il arrive, il détonne en partant, puis il s'assit pas sur un banc, il s'assit dans l'allée, il n'y avait pas d'autre place. Fait que là, il y a un ancien qui se lève, puis il s'en va vers lui. Là, il y avait comme un silence, hein. Il va-tu y faire des remontants, tout ça? Ben non, qu'est-ce que le monsieur il fait? C'est un vieux monsieur. Il se lève, il va s'asseoir direct à côté de lui. Puis il met le bras comme ça, il dit, bienvenue dans notre église. Ça, c'est l'accueil selon Jésus-Christ. Il est sorti de la zone de confort, en fait. Tu sais, c'était pas juste d'aller voir le gars, c'était d'avoir tous les regards sur lui. De, hé, tu sais. Mais savez-vous quoi? Il a rejoint le gars, là où il était rendu, puis il a pu laisser Christ se manifester à travers lui. Ça a fait vraiment quelque chose de spécial dans l'église. Ça a été plus que juste accueillir quelqu'un. Je pense que l'église au complet a eu une leçon cette fois-là. Quand je dis rejoindre les gens où ils sont rendus, c'est un bon exemple. Je veux conclure avec ceci ce matin. On va pas lire les versets de la fin, mais on voit clairement que dans la fin du chapitre, il y a tout un contexte là, de difficultés, d'opposition spirituelle. Paul qui avait entre les mains de l'argent, qui s'en allait, ça dit l'Achaïe et la Macédoine, ça c'est les Corinthiens, les églises de cette région-là du monde, qui avaient donné pour les pauvres, les chrétiens pauvres à Jérusalem. OK? Fait que là, ils voulaient s'en aller là-bas, mais ils s'attendaient à de l'opposition, ils s'attendaient à des difficultés. Bon, il y a tout un contexte de guerre spirituelle, d'opposition spirituelle, pour ceux qui disent « Priez pour que je sois délivré des incrédules de Judée. » Ça, c'est des juifs non-croyants qui disent « Hey, on prend pas l'argent sale des païens. » Genre, d'affaire dans le même truc. Tu sais, t'arrives avec de l'argent, puis on n'en veut pas parce que ton argent est sale, là. Mais bon, c'était des incrédules, mais bon. Fait qu'il y a tout ce contexte-là, mais je vous dis ça pour conclure avec le verset 30. Un verset qui m'est tellement cher. Paul, après avoir parlé de toutes ces choses-là, puis il a parlé de beaucoup de choses quand même dans ce chapitre-là, il dit au verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre... » C'est un beau passage trinitaire. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Donc le Fils, l'Esprit, puis le Père. Puis là, afin que je sois délivré des incrédules de Judée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ici, là, dans le verset 30, il y a quelque chose d'un peu, sans trop être technique, dans le fond, c'est qu'il leur dit, « Faites comme le Consolateur, soyez des paraclètes, venez à mes côtés. Venez là avec moi, vous autres, vous êtes loin, là, mais je vous demande de venir à mes côtés pour combattre. » Autrement dit, Paul leur dit, « Je crois que vous faites une différence dans la guerre spirituelle. Je vous demande, là, dans l'opposition et les difficultés que je vis, là, de venir à mes côtés, là, puis vous battre avec moi. » C'est ça qui est merveilleux dans le domaine spirituel, là, c'est pas limité géographiquement. Quand on a des lettres de prière, quand on entend parler de gens dans l'église, comme là, il y en a qui sont loin, puis tout ça, puis qu'on prie pour eux autres, on va à leur côté, puis c'est tout comme si on était là directement en personne. Quand on prie, ça fait la différence dans les choses spirituelles. Le monde spirituel n'est pas limité physiquement et temporellement. Et Paul, dans le fond, ce qu'il leur dit... Venez intercéder. Aimez les gens non aimables. Venez là dans le cas. Supportez-moi dans le combat là, de souffrir pour le bien et le péché des autres. Parce que les gens de sa nation ils donnaient de la misère. Il y a les païens aussi qui donnent de la misère. Quand vous lisez la vie de Paul, donc il leur dit, venez avec moi, c'est un combat. C'est une réalité dure, mais Christ est vainqueur. Et donc, je vous amène tout ça pour vous dire, voulez-vous aussi, vous, ce matin, rentrer dans l'arène. L'arène, c'est une autre image que Paul utilise. Ça dit, étant environné d'une si grande nuée de témoins, hein, ça dit, ayant les regards sur Jésus, tous les témoins, c'est tous ceux qui ont marché par la foi avant nous autres. Ben là, on est environné d'eux autres et là, c'est à notre tour de marcher par la foi. C'est à notre tour de faire confiance à Dieu. C'est à notre tour d'avoir le courage de la foi que nous professons et de vivre cette mission christique de ne pas chercher qui nous plaît, ce qui nous plaît, mais comme Christ d'accepter que les outrages de ceux qui insulte Dieu tombe sur nous. Accepter le prix de l'opprobre de Christ. Et je dirais encore plus, pas juste l'accepter, rechercher. Vous savez, s'accueillir les uns les autres et connaître le Dieu qui est la source de notre acceptation mutuelle, c'est une des choses les plus merveilleuses. Et c'est une des choses pour lesquelles je rends gloire à Dieu qu'on a vu à travers les trois dernières années. Où est-ce qu'on a vu l'amour de Christ se manifester à travers tellement de façons, puis ce lien béni qui nous unit, comme on l'a chanté tantôt. Mais c'est pas fini. Puis on doit persévérer dans le combat. Savez-vous que on attire l'attention de l'ennemi quand Christ se manifeste? Je pense qu'avant, là, Satan n'avait pas besoin de s'occuper de nous autres tant que ça, parce que on dérangeait pas trop son royaume, puis avec notre chair, sans trop s'en rendre compte, on faisait pas mal la job de sous-contractant pour ce que lui aurait pu faire lui-même, fait qu'il n'avait pas besoin de se baudrer trop avec nous autres. Mais là, je pense que on a attiré spécialement l'attention de l'ennemi pour amener de la discorde, amener le découragement, amener toutes sortes de choses, parce que Dieu se manifeste réellement au milieu de nous autres. Et je dirais que si on veut simplement comprendre ce que Dieu veut faire parmi nous autres, bien, il veut continuer ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé. Cette œuvre qu'il a commencé, il veut la rendre parfaite jusqu'au jour de Christ. Mais je dirais que peu importe c'est quoi que Dieu a fait dans notre vie, là, la réponse de la foi que Dieu désire, là, dans le fond, c'est un simple choix. Est-ce que je veux répondre ou est-ce que je veux laisser Dieu répondre? Est-ce que je veux le laisser faire? Parce que Dieu est vrai, là. Puis Dieu se manifeste, puis Dieu, quand il veut quelque chose, il parle à ses enfants, il nous guide dans toute la vérité, là. Mais est-ce que je le laisse ou est-ce que je résiste à sa volonté puis j'insiste sur la mienne? Est-ce que ma peur de perdre le contrôle m'empêche de lui laisser le contrôle? Et ça, mes amis, là, c'est pas juste dans ma relation avec Dieu que ça apparaît, c'est aussi dans ma relation avec les autres. Parce que si j'insiste sur moi, ce que moi je veux, que ça paye vers vous, ça va tomber en collision avec le moi, ce que les autres y veulent. Donc une église qui est en paix, qui est dans l'amour, la vérité, c'est une église qui laisse Dieu régner, c'est une église qui comprend individu par individu que l'important, c'est pas ma volonté, c'est pas ce que moi je veux, c'est la volonté de Dieu. Puis qu'il accepte avec joie et avec foi. Et donc, mon défi ce matin, c'est simplement ceci. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce matin? À quoi Dieu t'appelle à lui faire confiance avec ce que tu as entendu aujourd'hui? Et moi, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, en fait. Bon, peut-être que je m'arrêtais pour avoir peut-être une idée pour un peu pour l'autre. Mais probablement, je me tromperais aussi. Mais Dieu, lui, il sait. Et je te dis simplement, embrasse par la foi, embarque par la foi dans la confiance à Dieu, dans ce que lui veut faire en le laissant faire. C'est pas de la passivité. C'est très actif de dire, non pas ma volonté, puis ça combat dans nos membres, là, mais la tienne, Seigneur. Souvent, c'est ce qui va nous empêcher d'avoir cette paix, cette joie. C'est nous-mêmes qui résistons à Dieu au lieu de le laisser faire. Ah, Seigneur, on vient à toi humblement. Tu vois, Seigneur, comment on a cette tendance à résister, à insister. Et c'est de la folie parce que, Seigneur, tu es le bon berger, tu es vrai, tu veux nous prendre dans d'aucune façon. Et tu nous aimes parfaitement. Donc, Seigneur, on a besoin d'être exhorté pour que la vie de Christ puisse se manifester. Et merci que avec cette mort que ça veut produire, le fait qu'on souffre, le fait qu'on n'est pas compris, le fait qu'on n'a pas les choses comme on voudrait, merci que c'est comme ça que ta vie est manifestée. Oh, merci que tu l'as voulu comme ça pour que toi, tu sois glorifié. Merci que quand on arrête, on t'abandonne le contrôle de notre vie, c'est là qu'on découvre c'est quoi la vraie vie. Oh, Seigneur, continue à nous enseigner. Tu vois où il y a des points, Seigneur, qui peuvent achopper. Moi, tu le vois dans ma vie, Seigneur, les choses qui me font peur, les choses que j'appréhende, les choses que je comprends pas ou que je voudrais pas, je les abandonne complètement, Seigneur. C'est pas ma vie. c'est la tienne. Et merci, Seigneur, que tu es digne de toute confiance. Puisse ton peuple qui t'y réunit ce matin répondre par la foi à ce que tu avais à dire à chacun. Et merci, Seigneur, que tu es là au milieu de nous autres. Tu es vrai, tu es bon. On te loue, on te bénit. Au nom de Jésus. Amen.